Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. Ce matin, on est le jeudi 24 juin 2021, il est 9h31 et on va commencer les news jeux vidéo de ces dernières 24 heures, ou pas bien loin. Alors on va parler de quoi aujourd'hui, quels sont les gros titres? Les gros titres, on va parler de xCloud et de comment il est en train de s'améliorer d'un point de vue de sa puissance d'exécution, côté serveur évidemment. Merci Eddy 2. On va parler de Cyberpunk, mais un tout petit peu. On va surtout parler de rachats aujourd'hui. Beaucoup de rachats de studios, de petits, de grands, de prises de participation. Évidemment, on parlera de Tencent, car prise de participation en 2021 égale forcément à un moment ou à un autre Tencent. Et puis, peut-être qu'on discutera de Zelda, oui, de Sonic aussi. Waouh, ça c'est une matinale jeu vidéo qui a du panache. Et d'annonces bah, aussi indépendantes, hein, parce que vous savez qu'on ne fait jamais l'impasse sur les bandes annonces des petits jeux qui nous feront peut-être cet été. Avant ça, on va regarder la bande annonce du matin. Et la bande annonce du matin, elle est très spéciale dans le sens où bah, c'est un jeu auquel moi je n'ai pas pu m'adonner encore, qui sort, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui ou demain, et qui a choisi pour sa bande annonce de lancement quelque chose de très très particulier, donc je voudrais que vous m'expliquiez, il y a peut-être une info, une référence que j'ai ratée dans cette opération. Bref, c'est vrai que ce trailer de lancement de Scarlet Nexus est inattendu.
In a world
that's hard to explain. It's already started.
Have you looked outside?
This is it. I've never seen one this bad.
You need to get here fast. The others, they're already here.
Listen, something big is coming. This is bad.
On ne sait pas trop ce qui vient de se passer, mais c'est la bande-annonce cinématique de Scarlet Nexus à deux jours ou un jour de sa sortie. J'ai pas trop saisi le principe de faire du live action, encore moins de faire du live action avec des personnages occidentaux. Du coup, ça a rien à voir avec la, doublement rien à voir avec la DA du jeu. Et puis surtout, on ne sait pas du tout de quoi le jeu est fait. Mais voilà, Bandai Namco s'est dit, bon, vas-y, on part là-dessus, pourquoi pas, même si effectivement, bah, ça semble avoir le budget d'une web série. Des personnaux, oui, j'en suis venu à dire des personnaux. Voilà, si vous ne savez pas voilà, à quoi ressemble Scarlet Nexus, clairement vous pourrez aller voir ça de votre côté sur YouTube, vous verrez que ça n'a rien à voir, à part effectivement qu'on voit quelques petits éléments d'interface qui rappellent l'interface et la, on va dire les graphies du logo du jeu ou ce genre de choses. Mais j'ai pas trop pigé de quoi il retournait. Alors Scarlet Nexus, vous avez les tests qui commencent à tomber en ce moment, hein, il me semble que c'est aujourd'hui celui de Gamekult, vous avez celui d'Atomium ou celui d'Exerf, celui qui doivent être tombés hier, et puis un milliard d'autres j'imagine. Donc je vous laisserai vous intéresser évidemment au jeu, jeu d'action plutôt on va dire tourné vers quelques petites torgnoles par-ci par-là, mais manifestement aussi beaucoup de dialogues, beaucoup de dialogues. Puisque quand même Atomium dit « laissez-moi jouer », C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, hein, quand même. Bref. Ça, c'est pour, donc, ce cher Scarlet Nexus. Et on verra un petit peu ce qu'en pensera bah, le site de référence, évidemment, hein, mon ancien employeur Gamekult. Je les embrasse d'ailleurs. Au passage, on embraye sur bah, l'un des partenaires, on va dire, privilégié pendant la communication du jeu, en tout cas pendant l'époque des démos de Scarlet Nexus, à savoir Microsoft. Microsoft faisait un petit peu le point sur les nouvelles annonces et les nouveaux rendez-vous du Game Pass. Vous le savez, hein, Microsoft, la division Xbox, fait un point sur les sorties du Game Pass environ toutes les deux semaines, et c'est l'occasion pour nous justement et bah, d'en faire un point aussi et de regarder un petit peu ce qui arrive, ce que vaut cet arrivage aussi. Bon, cette fois-ci, je dois dire que je suis pas complètement mystifié par ce que je vois arriver. Alors je vais vous les faire, évidemment c'est toujours présenté dans le désordre, alors je vais vous le remettre dans l'ordre. À partir du 23 juin sur cloud, console et PC, donc les trois Game Pass, on va les appeler comme ça, vous allez retrouver Worms Rumble. Le 24 juin, c'est une arrivée donc de Iron Harvest qui est là. Donc Iron Harvest, on le rappelle, un RTS dans un univers dystopique qui s'appelle, enfin uchronique plutôt, qui s'appelle 1920+, qui est inspiré par les peintures de Jakub Rosalski, enfin... Oui, tout à fait, les peintures de Jakub Rosalski. Et vous trouverez aussi Need for Speed Hot Pursuit, le même jour sur console et PC. Prodeus, et là ça va tout de suite beaucoup plus nous intéresser, puisque Prodeus en l'occurrence, eh bien celui-ci est encore en accès anticipé et arrive plutôt, on va dire, sur le programme qu'on appelle le programme, il me semble que c'est Game Preview. Un petit trailer de Prodeus pour vous remettre un peu dans l'ambiance, il est déjà en accès anticipé en fait sur Steam depuis novembre 2020, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble à ça. Donc un jeu pour toute la famille, comme vous pouvez le voir. Qui arrive donc en game preview sur le Game Pass PC, et uniquement sur le Game Pass PC pour le moment, puisqu'il n'y a pas de version console pour le moment, à partir du 24 juin. Le 24 juin, c'est aujourd'hui. Donc si vous voulez vous faire une petite découverte du jeu, c'est le moment. On est en juin, oui, on est en juin. Alors ça paraît fou comme ça, mais oui. Et donc, on y retourne sur les petites, le reste du listing. On aura aussi l'arrivée sur xCloud, il était déjà là sur les autres catalogues de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts à partir du 1er juillet. Le 1er juillet, ce sera aussi l'arrivée de Bug Fables. Alors Bug Fables, moi je ne connais absolument pas, enfin Bug Fables et son nom complet c'est Bug Fables de Everlasting Sapling. Du coup, j'imagine que ça veut dire le sapin éternel ou la branche de sapling, je crois. Ah, je ne sais plus. Gang Beasts qui arrive sur cloud, console et PC. Gang Beasts, je pense que vous connaissez. Sapling, c'est la sève. Ah, ça explique beaucoup de choses. Immortal Realms Vampire Wars. Bon, celui-ci, c'est pas particulièrement un jeu qui a brillé quand il est arrivé il y a quelques mois maintenant. Également sur cloud, console et PC le même jour, le 1er juillet. Et Limbo. Alors, Limbo, bon, voilà, il arrive sur tous les Game Pass en même temps. C'est peut-être, on va dire, intéressant pour, je dirais, plutôt un intérêt d'historien. Parce que je dirais que si vous avez fait Inside et que vous faites Limbo derrière, vous risquez d'avoir des surprises. Parce que Limbo, c'est pas si bien, voilà, hein, par rapport à Inside, si vous voulez. C'était plutôt un... Voilà, il fallait commencer quelque part, quoi. Mais bon, si vous avez un intérêt, effectivement, pour ce que fait Playdead, ça peut être le moment de vous y intéresser, surtout gratuitement, en tout cas sans frais supplémentaires, puisque Game Pass. Instant unsub. Non, mais c'était pas pour faire une hot take, hein. C'est juste que par rapport à Inside, c'est gigantesque comme progression entre les deux. Hmm. Donc, sap, c'est sève, et sapling, c'est une pousse. Voilà. C'est ce que j'ai failli vous dire, un sapinet. Ouais, j'étais pas si loin à la base. Donc, l'éternel jeune pousse. Bon, écoutez, en même temps, si on commence à partir sur des inside et prétentieux et inside et surestimés, je vais regretter. Mais je l'ai mérité. J'ai envoyé une requête dans un sens, il m'en revient un millier dans l'autre. C'est normal. Donc voilà pour le Game Pass avec donc une arrivée voilà qui manque peut-être d'un comment dire d'un truc qui mette tout le monde absolument tout le monde d'accord à part peut-être Limbo mais bon c'est un peu vieillot quand même peut-être effectivement se découvrir ce Need for Speed Hot Pursuit Remastered à moindre frais. Pourquoi pas ? Ça tombe bien parce que le remaster est très très léger. Hein. Par exemple, si vous aviez trouvé que la manière dont avait été remasterisé Mass Effect avec la Legendary Collection était légère, Hot Pursuit, c'est vraiment, vraiment un cran en dessous encore. Donc c'est bien de pouvoir le découvrir par des biais qui vous font faire quelques économies. Après Prodeus, voilà. Moi, ce sera l'occasion probablement de me faire un petit essai de Prodeus. J'ai pas encore pris le temps, donc j'en profiterai avec grand plaisir. 85 pour Bugfable sur Metacritic et régulièrement dans la liste des meilleurs RPG PC. Et ben, bah, comme quoi, on peut avoir d'immenses zones d'ombre dans sa culture. Et donc, je le disais, on est sur les annonces, enfin, les news un peu Microsoft, on va essayer de les grouper hein, autant que faire se peut. Du côté du xCloud, donc vous savez que Microsoft est très, enfin, Xbox est très aux affaires sur le xCloud, qu'ils ont envie de le pousser sur un maximum de plateformes différentes, évidemment les plateformes historiques que sont voilà, les smartphones Android, le PC, demain peut-être les consoles d'ancienne génération qui pourraient devenir des boîtes à xCloud, les Smart TV après-demain et aussi leur équivalent d'un Chromecast. Et du coup, bah, il va falloir un petit peu faire la publicité de cette possibilité de jouer en cloud computing via le Game Pass, c'est-à-dire bah, de ne plus avoir à se poser la question de « est-ce que j'ai la bonne console ?» et ne pas se poser la question de « j'ai la bonne console » dans une période où justement les consoles ont galère à les trouver, c'est assez vital. Et c'est peut-être aussi pour ça que Microsoft a fait le choix de déployer maintenant, alors bon ça fait quelques temps qu'ils en parlent maintenant, de déployer donc une nouvelle, on va dire un nouveau niveau de puissance de calcul côté serveur sur le Game Pass xCloud. Puisque avant, il faut bien se dire que le xCloud, ce que vous jouiez en fait sur des Xbox One et des Xbox One X modifiés. C'était bien, mais c'était pas suffisant quand demain, après-demain, on aura besoin de parler d'une meilleure définition d'image, peut-être aussi à l'occasion de ray tracing. Et ils avaient parlé du fait de changer le parc installé de l'autre côté au fur et à mesure pour au moins se diriger vers les séries, les Xbox Series. Et Ars Technica, donc le magazine Ars Technica, a commencé là à repérer, avant même l'officialisation par Microsoft, des changements sur certaines exécutions de certains jeux sur le catalogue xCloud qui laisse penser qu'ils se sont dirigés vers peut-être pas du matériel Series X mais peut-être de la Series S modifiée qui permettent en tout cas de profiter de nouvelles performances, de temps de chargement réduit, de tout ça. C'est le cas par exemple si vous jouez à Yakuza Like a Dragon qui vient d'arriver dans le Game Pass, alors ça a été un événement évidemment, c'est arrivé en plein E3, bah là par exemple vous pouvez déjà en profiter avec des temps de chargement qui sont quasiment écrabouillés, quasiment inexistants, avec aussi une meilleure définition d'image, avec beaucoup moins de temps de latence dans les menus, enfin tout ce qui fait aussi un petit peu la nouvelle génération de consoles du côté de chez Microsoft. D'autres jeux pour l'instant n'en profitent absolument pas. Ori 2 par exemple vous sort des temps de chargement d'une plombe encore comme s'il tournait sur une Xbox One, mais c'est à prévoir hein, sur un système qui est en plein déploiement, c'est-à-dire que pour l'instant il y a peut-être des jeux qui sont voilà, qui ont un accès préférentiel au nouveau parc de machines du côté serveur. Et on peut aussi se dire, et c'est à ce que se dit, c'est vrai que la musique est très angoissante, il faut vraiment qu'on la supprime ce morceau, voilà. Et on peut peut-être aussi se dire que, comme le dit d'ailleurs Ars Technica, c'est le bon moment pour passer sur du matos, Series côté serveur, bah parce que là il y a un événement bientôt et qu'il va falloir peut-être en profiter et essayer de surfer dessus du côté de Microsoft, puisque le 29, donc dans 5 jours, c'est la sortie des patchs Series S, Series X pour Doom Eternal, avec dedans du Ray Tracing. S'ils pouvaient, en pleine pénurie de consoles, faire la publicité d'un xCloud qui est capable de vous envoyer une image de Doom Eternal rétrécée directement chez vous avec une bonne connexion, c'est un bon moment pour faire une publicité pour le xCloud, comprenez bien. Du coup, on peut s'attendre à ce que ce qui a été repéré par Ars Technica, là aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence le 23, soit très probablement officialisé par un communiqué par Microsoft dans les 5 jours qui viennent. En tout cas, ce serait assez logique. Merci beaucoup, Spork le Undead. La vraie date, c'est surtout le 27 juillet pour Flight Simulator Series X. Ouais, mais est-ce qu'il sera directement dans le cloud, notre Kassim ? Je ne l'ai pas noté, celui-ci. Merci, Duster Hertz. Donc, comprenez bien, hein, quand on parle de ça, on ne parle pas du fait qu'il y a un parc, des entrepôts remplis de consoles telles que vous les connaissez. Hein. Ce sont des versions modifiées, évidemment. Mais maintenant, la grande question, ça va être de savoir est-ce qu'on est sur du vrai matériel type Series X, qui coûte quand même très cher, ou sur du Series S modifié pour proposer un bon compromis. Ah, bah on a coupé la musique angoissante. Résultat, maintenant, c'est relax de chez relax. Orzos, merci beaucoup pour le prime. Est-ce que Microsoft va réussir son pari là où Stadia s'est cassé les dents, à savoir le jeu sur le cloud ? En tout cas, ils ont une infrastructure qu'ils ont bêta-testée, sur laquelle ils ont fait de la R&D depuis bien plus longtemps que Stadia, parce que Azure, ça fait très très longtemps qu'ils travaillent dessus. Ils ont l'expérience de ceux qui se sont cassés les dents. Ils font venir quelqu'un comme Kim Swift, on en parlait il y a 2 jours, pour justement gérer les partenariats avec des développeurs indépendants pour faire des jeux qui seraient un petit peu exclusifs au xCloud. Je pense en tout cas, et puis ils ont la force de frappe du Game Pass, je pense qu'ils sont beaucoup mieux mis que Stadia, qui arrivait en n'y connaissant rien, mais ni au cloud gaming, ni aux jeux vidéo. Donc oui, je pense que déjà leurs armes de départ sont absolument incomparables. Après, ils en feront toujours, à mon avis, qu'une manière de jouer pour un public qui n'est pas le public de cette matinale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je pense que pour un public gamer, la manière dont un Stadia fonctionne, techniquement, ou la manière dont fonctionne un GeForce Now, ça risque d'être plus intéressant. En revanche, pour les gens qu'ils vont viser avec le xCloud, comme je le disais, qui sont peut-être des moins gamers, qui sont des gens qui ont juste une Smart TV ou ce genre de choses, ça risque de pouvoir devenir, surtout s'ils stabilisent le service, ça peut devenir, on va dire, suffisant pour devenir une alternative, quoi. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très agressif, Théo le zombie, là-dessus. De toute façon, ils ne peuvent pas en faire leur... Le but, c'est vraiment d'aller séduire un autre public pour pouvoir continuer, à côté de ça, à vendre leur console au public actuel, quoi. Et eux communiquent, et eux ça bouge, et eux, enfin, il n'est quasiment pas une semaine sans qu'on entende parler du xCloud en ce moment d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'au niveau de la communication, ils sont assez rodés maintenant avec le Game Pass. On entend forcément toujours parler de voilà, tel jeu rentre dans le xCloud. Quand c'est pas et les projets de Phil Spencer et ses ouailles, etc., etc., quoi. C'en est donc fini pour Microsoft ce matin, juste pour ce matin évidemment, hein, vous le savez bien, et on va pouvoir passer un petit peu à Electronic Arts. Electronic Arts qui a créé un peu la surprise, enfin surprise, modérée. Hier, on va parler en fait d'un rachat qui les lie, le temps du rachat évidemment, à Warner Bros. Games. Alors Warner Bros. Games, vous le savez, est sous le coup d'un rachat. En fait, c'est AT&T, leur possesseur historique, qui les revend au groupe audiovisuel Discovery. C'est un rachat qui, lui, ne sera acté que dans un certain nombre d'années, enfin un certain nombre de mois, pardon. Et donc, en attendant, ce qu'on savait, c'est que peut-être que tous les studios Warner Bros. Games ne passeraient pas automatiquement chez Discovery, qu'il y aurait peut-être que AT&T, avant le rachat, se délesterait de quelques studios qui n'intéressent pas Discovery, dont ils ont envie de se débarrasser parce qu'ils représentent une masse de cash assez hallucinante, et c'est le cas par exemple pour le studio Playdemic. Alors Playdemic, c'est, avant de vous dire qui c'est, je vais vous dire pour combien Warner Bros. AT&T l'a revendu à Electronic Arts. Le studio, qui est un développeur de jeux mobiles, a été revendu seul à 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machin, de truc. C'est dans le communiqué de presse, 1,4 milliard de dollars en cash. Pourquoi ? Il se trouve qu'en fait, alors 1,4 milliard de dollars, ça nous fait un sixième du rachat de Bethesda par Microsoft. Environ. Et ça nous rapproche pas, enfin, c'est pas si lointain finalement d'un autre rachat de studio mobile organisé par Electronic Arts au début de l'année, Glu Mobile, pour lequel ils avaient posé 2,1 milliards sur la table quand même. Vous vous rendez compte un petit peu des ordres d'échelle, des échelles un petit peu déliantes, et pourquoi quand on parle de jeux mobiles et de free-to-play, pourquoi ça intéresse les gros éditeurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font ? Playdemic, ils font ça. Voilà. Ils font Golf Clash. Golf Clash, c'est un free-to-play de golf qui s'est lancé en 2017. Sauf que depuis qu'il s'est lancé en 2017, Golf Clash, il a ramené 1 milliard de dollars. En 3 ans et quelques, ce jeu-là a ramené 1 milliard de dollars. Et donc forcément, ça intéresse Electronic Arts à plus d'un titre. Déjà parce que c'est un free-to-play où on affronte ses amis dans des parties de golf, avec des cosmétiques, avec des achats in-game, avec tout ça. Et donc, Electronic Arts a très envie de se faire apprendre comment fonctionne le business, le bon business mobile, celui qui fonctionne. Mais en plus de ça, Electronic Arts, vous le savez, ils sont en train de se remettre au golf, justement. Ils ont la licence PGA. Donc, ils vont faire un nouveau PGA Tour, qui sera pour les consoles, pour les PC, pour les machins. Mais dans la nouvelle, on va dire, la nouvelle manière de faire du business, où tout le monde regarde comment Activision fait et a besoin de ces fameux plusieurs points d'entrée vers une même licence, avec une version free-to-play et une version premium, la version free-to-play emmenant des joueurs vers la version premium et inversement, eh bien, ils vont probablement demander justement à Playdemic de faire un jeu de golf, PGA Tour, free-to-play, avec leur expertise de la monétisation. Et ils vont peut-être réussir à se faire énormément de cash avec ça. Donc, voilà, pour un jeu qui a rapporté 1 milliard de dollars en 3 ans et demi d'existence, ils ont posé 1,4 milliard de dollars sur la table parce qu'ils rachètent le studio. Alors attention, hein, c'était pour vous montrer un petit peu, on va dire, le côté spartiate du jeu. C'était absolument pas pour m'en moquer, parce que je suis sûr que s'ils sont allés les chercher, c'est pas juste parce qu'ils savent monétiser, c'est peut-être aussi parce qu'ils savent très bien faire du jeu de golf pour mobile, quoi. Je connais pas les mécaniques de jeu, je sais pas si c'est du pay to win, parce que par exemple, il y a beaucoup de... Vous savez que tous les gros jeux actuels free to play qui font des milliards ne sont pas des pay to win. Ça peut être juste des gachas extrêmement bien préparés en termes de tirage, de skins de personnages, de nouvelles apparences, de nouveaux trucs cosmétiques. Il n'y a pas que le pay to win qui fait de la maille. Hein. Celui-ci en est un ? Bon. Alors d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça a intéressé Electronic Arts, évidemment. Playdemic, qui va pouvoir bosser sur une licence, ça va les changer. Et en plus de ça, ça va vraiment intéresser AT&T. Parce que AT&T, il le disait, hein, au moment de la revente de la division Warner Bros. Media, il le disait, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de rentrer du blé vite, là. On veut rentrer du cash vite. Là, on vient littéralement de parler d'une vente en cash, d'une revente en cash, dans le but de réinjecter un maximum de moyens dans leur corps de métier de base, les télécommunications. Et bon, bah, si vous avez déjà essayé un petit peu de... Si vous avez déjà profité du réseau AT&T dans certains pays, vous savez que peut-être que ça mériterait de réinjecter un peu de blé dedans. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, que tout ce qui fait partie de Warner Bros. Media en termes de jeux vidéo va être bradé aux quatre vents, si vous voulez. On peut partir du principe, selon certaines déclarations qui ont été faites ces dernières semaines, que Warner Bros. Media, qui est en train de se préparer pour passer donc de AT&T à Discovery, est en train de se resserrer autour de ses studios et de ses licences historiques, donc DC Comics, Harry Potter, des trucs comme ça. Et à côté de ça, peut-être de lâcher du lest sur des trucs qui sont un peu périphériques, comme ce jeu de golf, ou peut-être, on en parlait il y a quoi, un mois, on se disait que l'un des éventuels bons clients à une revente pouvait être par exemple TT Games, qui sont les créateurs des jeux Lego, qui pourraient tout à fait rejoindre un giron plus proche de la licence Lego, et ne pas faire la transition jusqu'à Discovery. Donc ça, il faudra attendre, parce que comme vous le savez, hein, peut-être, cette revente a été complètement annoncée de manière précipitée, les développeurs n'étaient pas au courant, les équipes là ne savent pas à qui elles appartiendront demain, globalement, il y en a pour quelques mois encore avant d'avoir le fin mot de l'histoire. TT Games, c'est fou, à chaque fois je dis TT Games, je vais dire TT Games maintenant, mais je vais dire TT Games et vous allez faire une autre blague. Et comment je vais pouvoir l'appeler pour que vous arrêtiez de faire des blagues nulles? Il faut que j'y réfléchisse. Le studio des jeux Lego, ouais, mais ça fait pas connaisseur. De TT Games, c'est pas mal, de TT Games. $1 milliard en 3 ans, c'est le CA ou le bénéfice dégagé? Assam Master, a priori, ce serait les investissements dans le jeu, en fait. Ce serait la somme captée en transaction. Si j'ai bien fait mes devoirs. Généralement, d'ailleurs, les développeurs de jeux free-to-play communiquent comme ça. Communiquent sur la somme captée en microtransactions. Plutôt que de dire... si c'est du CA, si c'est du résultat, ou ce genre de choses. Oui, c'est le CA du jeu. On peut voir ça comme ça, ouais. FIV. On n'a pas fini avec les rachats. Hein. Désolé, hein, mais c'est pas tout à fait terminé. Puisque j'en parlerai un petit peu durant le sommaire. Oui, Pascal Bretel, on a parlé du fait effectivement que Dead Space risquait de réapparaître durant l'EA Play Live du 22 juillet. Oui, on en a déjà parlé, on se demandait justement si ça allait être un remaster, un spin-off ou un nouvel épisode. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais notamment oublié, à l'époque, c'était il y a 2 jours, j'avais oublié de vous rappeler qu'à côté de ça, de son côté, Glenn Schofield, le créateur de Dead Space, qui a eu le temps depuis de quitter Visceral, de cofonder Sledgehammer, de quitter Sledgehammer et de partir bosser chez Krafton, travaille maintenant sur Callisto Protocol. Et Callisto Protocol, c'est donc le Dead Space-like, qui est censé être lié de près ou de loin à l'univers de PUBG, mais c'est pas très important. En tout cas, on avait vu une bande-annonce, hein, de Callisto Protocol, et on avait vu tout de suite la filiation avec Dead Space. Donc, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de puristes en tout cas, Dead Space sans Schofield, c'est pas Dead Space, mais en même temps, vu que Dead Space a vite quand même changé d'axe, notamment au moment du 3e épisode, qui leur a coûté très cher, on verra ce qu'ils décident de faire avec ça. Moi, je mets effectivement un petit peu de blé sur un Dead Space Remaster, un remaster à l'Electronic Arts, pas trop fort, pas trop cher, mais ça vendra. Est-ce qu'il y a un lore dans PUBG? Masked G, je me demande en fait si Krafton, quand il communique sur cette espèce d'univers unifié entre leurs jeux, c'est pas plus un truc qui excite les investisseurs plutôt que les joueurs. Il est censé y avoir du lore qui permettrait effectivement de se dire que Callisto Protocol est dans le futur de PUBG, mais qui s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas... voilà. Il risque effectivement d'y avoir un moment, tu vas utiliser une poêle, et puis les gens feront... Voilà, fin de l'histoire. On est lâché dans un vaisseau alien en parachute. C'est une idée. Il faut l'explorer, il faut voir hein, si elle peut payer. Allez, on continue. Parce que y en a des autres, des rachats. Des rachats, cette fois-ci, c'est plus une prise de contrôle majoritaire après une prise de parti minoritaire. Donc Jaeger, donc le studio allemand derrière lequel, qui vous a proposé Spec Ops The Line, et puis ensuite Dreadnought, et puis ensuite ils ont bossé un temps sur Dead Island avant de se faire retirer le projet, Dead Island 2 pardon, et puis actuellement ils sont sur The Cycle. Donc ce studio-là, ce Jaeger-là, passe officiellement sous contrôle de Tencent. Donc le géant chinois qui avait pris une participation minoritaire qui devait être donc en début 2020, a passé la seconde, et c'est un communiqué officiel du studio qui nous l'annonce. Donc les quelques 150 employés rejoignent officiellement la famille étendue, je dis famille étendue hein, parce que c'est une très très grande famille maintenant chez Tencent, donc dans laquelle on compte pour les studios qui sont possédés en tout cas en majorité, Riot, Clay Entertainment, hein, participation majoritaire chez Clay aussi, Funcom, Grinding Gear Games, hein, les créateurs de POE, et pour les participations minoritaires, Epic, Fat Shark, Krafton, Sumo Digital, Frontier, Platinum Games, Bohemia, Ubisoft, Activision, tout le monde est là. Donc voilà, Jaeger devient un studio entièrement sous la coupe, on va dire, même si c'est très négatif de le dire comme ça, de Tencent, et ça va surtout permettre, en fait, on le comprend, de sauver le studio, puisqu'après le lancement en fait de Dreadnought qui était vraiment pas intéressant, et puis The Cycle qui est donc en accès anticipé sur Epic Game Store depuis 2019, mais en fait personne n'est au courant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui y joue et globalement bah, il est sorti dans une espèce d'indifférence générale. Il fallait sauver les emplois, et c'est donc le projet de cette revente, sauver d'abord les emplois, puis réinjecter de l'argent dans The Cycle pour terminer son développement et peut-être lui faire prendre un nouvel essor, peut-être le faire redécouvrir aux joueurs. Donc normalement il était censé sortir d'accès anticipé sur Epic Game Store en 2021, maintenant ils visent 2022 parce qu'évidemment ils vont revoir un petit peu leur plan par rapport à ça, mais donc The Cycle ça ressemble à ça hein, pour info. Et puis va pour le DMCA 20. C'est un shooter, hein, c'est un shooter coop avec des héros. Difficile effectivement de tirer de son épingle du jeu avec un jeu pareil. C'est pour vous dire, là c'est quand même le trailer de la saison 3. C'est la saison 3 du jeu, il est toujours en accès anticipé, donc clairement ils ont fait un choix d'un soft launch qui à mon avis leur est revenu dans la tronche en mode tout le monde s'en fout. C'est un peu compliqué. Je pense qu'ils ont vraiment fait les mauvais choix. C'est pas la première fois qu'ils feraient des mauvais choix, hein, parce que leur grand moment à Jaeger, ça devait justement être de récupérer Dead Island 2 des mains de qui ? Je sais plus. Ensuite, on leur a pris et c'est parti chez Dunbuster. C'est quoi un soft launch, Busquets ? C'est quand tu lances une grande partie de tes fonctionnalités et que tu considères que ton service tourne déjà à plein régime alors qu'il est encore en bêta, si tu veux. Normalement, c'est censé être, tu lui donnes accès qu'à une partie des utilisateurs. C'est un peu le cas des accès anticipés. Ouais, je pense que ça a fait comme ça. Ça a fait Jaeger, Techland, Dawnbuster pour Dead Island 2. Ou Techland, Jaeger, Dawnbuster. Ouais, bref. Donc ça, hop, c'est normal, Glory Man. Je suis encore en train de voir pour la lisibilité, mais à la base, le défilement de la musique doit s'arrêter. Je veux plus qu'il y ait de défilement parce que les gens n'arrêtent pas de dire que le défilement les emmerde. C'est juste que je vais passer ça sur deux lignes pour que tout soit lisible d'une traite. C'est juste que là, on est en... Vous arrivez dans la matinale, d'entre les matinales, si vous voulez. Et justement, Tencent, on n'a pas fini d'en parler. Puisque Tencent, peut-être qu'on a déjà eu l'occasion, peut-être que vous étiez déjà là quand on parlait de Timmy. C'est qui Timmy ? Timmy, c'est le studio filial de Tencent qui est spécialisé dans la forte monétisation de free-to-play, puisque ce sont les développeurs de Call of Duty Mobile. Et aussi de Honor of Kings, mais bon, ça on s'en fout, c'est Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, c'est 500 millions de téléchargements en 2 ans. 500 millions de téléchargements, un demi-milliard de téléchargements en 2 ans, pour vous mettre un petit peu dans l'idée du truc. Et donc Timmy, qui est donc cette filiale, Timmy Game Studio Group, Timmy Studio Group, ce sont donc des créateurs à la base de jeux plutôt mobiles, free-to-play, et à très très gros succès, qui sont très courtisés en ce moment, qui sont très courtisés pour, par Microsoft. Microsoft est intéressé, aimerait bien discuter avec eux pour qu'ils leur apprennent peut-être un jour à mieux justement créer ces plusieurs portes d'entrée vers une même licence. On sait aussi que voilà, Microsoft aurait envie même de travailler avec eux un jour sur un triple A. Est-ce que c'est de ce triple A là qu'on est en train de parler ou pas? Je ne sais pas. Mais Timmy Studio ouvre officiellement des locaux pour une équipe triple A sur le sol américain, à Seattle en l'occurrence, où ils montent du coup une team pour l'instant, une team de là pour l'instant c'est 25 personnes, c'est 25 personnes qui sont réunies depuis environ un an et qui travaillent sur le concept du jeu avant de partir sur le début du développement, puisque là le studio va être fondé avec des locaux etc. d'ici les mois qui viennent. Et l'équipe est emmenée par deux personnes, d'un côté Scott Wagner qui lui est directeur créatif et gestionnaire du studio, mais qui est passé par Electronic Arts, par Ubi San Francisco et par 343 Industries, pardon, vous dites peut-être 343, et qui était donc directeur de la conception sur Halo 4. Et en même temps, l'autre personne qui monte le studio avec lui, c'est Rosie Zagorcheva. Et elle vient d'Electronic Arts, elle a bossé chez DICE Los Angeles. Elle était notamment directrice du développement chez DICE Los Angeles. Et donc ces deux personnes-là, ensemble, montent une équipe pour faire quoi? Un FPS compétitif, avec une composante de jeu sur la durée, et un ADN PC et console, mais adaptable sur toutes les plateformes à terme. Voilà. Les développeurs de Call of Duty Mobile vont essayer de faire ce qu'ils savent faire, en l'occurrence, mais en commençant d'abord par un jeu plutôt PC-console, dont on verra effectivement de quoi il retourne. Et donc pour ça, pour rappel, un Timmy à côté de ça, c'est pas juste qu'il se lance entièrement dans le AAA, c'est juste qu'il monte ce studio, Timmy Seattle, mais à côté de ça, là, eux, ils sont très très aux affaires, par exemple au Japon, puisque Timmy, c'est aussi les développeurs de... Pokémon... Comment s'appelle-t-il ? Unite. Pokémon Unite, qui est en train de commencer ses tests techniques, ses tests de charge réseau en ce moment au Japon, donc jeu Switch, et c'est aussi eux qui sont en développement là-dessus. Donc à mon avis, au niveau des finances, chez Timmy, ça a l'air d'aller. Donc on verra ce qu'ils en feront, évidemment. Est-ce qu'on découvrira à terme que c'est un jeu tourné vers Microsoft, parce qu'on sait que Microsoft a envie de bosser avec eux? Je ne suis pas sûr, parce que je crois qu'ils disent vraiment console avec un S. C'est gentil, merci beaucoup Pascal Brutal. Oui, non mais Timmy, c'est un studio Tencent, donc côté finance, ça doit aller pas mal, ouais. Mais en plus, à mon avis, Timmy est aussi un des studios qui rapporte le plus à Tencent, actuellement. C'est peut-être le moment de se rappeler que, pendant que nous, on est là en train de dire « Oui, Tencent, machin et tout », le petit artisan japonais, lui... Il n'oublie pas d'être sympa avec vous. Il n'oublie pas de vous rappeler que bientôt, là, c'est quand? Le 16 juillet prochain, il faudra acheter The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Et pour ça, il y a une très jolie bande-annonce. Et je voudrais qu'on la regarde en entier, elle fait 5 minutes. J'espère que vous allez kiffer la voix française comme moi. Ils ont remis l'amiibo, hein. Il y a encore 30 secondes sur l'amiibo, c'est un plaisir.
Plongez dans la genèse d'une légende. Un conte des temps anciens et l'origine d'une lame légendaire qui ne peut être maniée que par un élu. The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. Tout commence sur une île flottant au-dessus des nuages, Célestebourg. aux côtés de notre héros et de son ami d'enfance, Zelda. Des personnages hauts en couleur y vivent paisiblement sous l'œil de la déesse. Un jour, Zelda est emportée par une tornade et disparaît sous les nuages.
C'est pas moi, j'ai mis la...
Part à sa recherche.
C'est pour vous prouver que c'est pas moi.
À la retrouver où qu'elle se trouve. Au cours de votre aventure, vous explorerez les cieux en chevauchant votre fière monture, un oiseau, nommé Célestrie.
Un oiseau.
Et vous plongerez à travers les nuages pour découvrir les territoires inexplorés qui se trouvent sur la terre ferme. Une forêt luxuriante. Un volcan en activité. Un désert où sommeille une ancienne civilisation. De nombreux habitants vivent également sur la terre ferme.
J'adore. Je trouve ce, ça doit devenir...
Lors
il faut que ça devienne légendaire, ce truc.
Certains pourront vous aider alors que vous glanerez des informations sur la localisation de Zelda.
Attendez, parce que c'est pas fini, parce que là, il parle simplement du monde du jeu. Mais maintenant, il va vous expliquer qu'on peut jouer à la fois avec les Joy-Con.
Les ennemis ne sont jamais loin. Pour pouvoir leur faire face,
à la Switch Lite.
Besoin de votre épée et de votre bouclier. Les manettes Joy-Con leur
Joy-Con.
Sont associées. Utilisez le Joy-Con droit comme une épée, en faisant des coups verticaux, horizontaux ou en diagonale. Brandissez le Joy-Con gauche comme un bouclier pour bloquer les attaques.
Alors.
Il vous permet de renvoyer un projectile à un ennemi ou de contrer.
Attendez, je me surpose une seconde parce que c'est quand même important de se le dire. N'oubliez pas que tout ça s'est produit au temps du Covid. C'est pas évident. C'est pas évident pour personne. C'est évident pour personne de fabriquer même des supports de communication. Mais on va continuer à rigoler.
Les commandes classiques sans détection de mouvement peuvent également être utilisées en mode télé.
En mode télé.
Ou avec une Nintendo Switch Lite. Au cours de votre voyage... Vous pourrez utiliser de nombreux objets.
Incroyable.
Utilisez le scarabée pour survoler les environnements et récupérer des objets éloignés. Attirez les ennemis vers vous avec le fouet. Utilisez-le pour vous déplacer. D'autres objets sont encore à découvrir. Vous devez apprendre à maîtriser ces éléments pour vous avancer.
Ah mais je vous ai dit que c'était long. Hein. C'est très long. Parce que là, on va encore parler... On est où là? Ah, on va parler de l'amiibo, je crois.
Ou dans les cieux, une aventure épique vous attend.
Très bien. Ah moi je veux la... Non mais moi je veux l'instant amiibo.
Que la légende est née.
Non. Non. Non, 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 non. Non, vous avez pas... C'est avec cet épisode que la légende est née, vous avez pas le droit. Quelle honte. Ah, ils sont trop forts.
Legend of Zelda, Skyward Sword HD, est compatible avec une nouvelle figurine amiibo. L'amiibo représente Zelda, accompagné de son Célestrie. Lors de cette exploration du monde de la surface, vous pourrez utiliser l'amiibo pour remonter au-dessus des nuages, où que vous soyez. Utilisez l'amiibo à nouveau et vous retournerez à l'endroit exact où vous l'avez utilisé.
C'est pas beau ça? Avec une voix de grand-père, ça passe. La douille passe. Nickel! Ah, quel plaisir! Incroyable! Bon, ça c'était fort. Non, mais c'est très fort. C'est très très fort. Vraiment. En plus, à chaque fois, le mettre à la fin. Au fait, ce cheat donc, qui permet de casser un élément de gameplay du jeu de base qui emmerdait un peu les gens, qu'on aurait pu mettre pour tout le monde, il est dans la statuette à 10 balles. Please understand. Je trouve ça très fort parce qu'à chaque fois, ils arrivent à le trouver de manière. Ils arrivent à le tourner de manière. Oh, ok! Ah, c'est sympa. Et puis avec la, il y a un petit côté Verters original en plus dans le trailer qui fait que ça fonctionne très bien. Voilà. J'avais envie. C'est 25 balles. 20 quoi? Ah non, faut payer le plastique, c'est normal. Non mais le plastique, moi j'aime ça, mais dans 20 ans il n'y en aura plus, donc forcément ça commence à coûter quoi. Bon voilà, j'avais envie, j'avais très 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 envie qu'on regarde cette bande-annonce ensemble. Parce que je voudrais qu'elle entre dans la légende. Je pourrais pas le faire seul. Il va falloir que vous portiez la bonne nouvelle, que vous le fassiez écouter autour de vous. Peut-être qu'on l'enregistre sur VHS, qu'on l'envoie dans le passé, je sais pas. Mais c'était trop beau. C'était trop beau et j'avais envie. J'avais envie qu'on en parle. J'avais envie qu'on en parle avant de parler de Sonic. Puisque c'est une vraie matinale jeux vidéo ce matin. Il manque que Mario d'ailleurs. On parlera pas de Mario ce matin. C'est un peu dommage. Donc Sonic fête ses 30 ans, toujours, encore, parfois bien, parfois pas bien. Hier soir c'était mortel, dans la conférence pré-E3 c'était pas bien. Mais aussi on a quelques informations qui nous viennent de la Sonic Team. Alors il y en a un petit peu au début, un petit peu à la fin, vous allez voir. Donc la première info, c'est que la Sonic Team, très satisfaite forcément du succès en salle du premier film Sonic, et puis assez optimiste sur le succès en salle du deuxième film qui a été annoncé, j'aimerais justement que Sonic se trouve une nouvelle vocation dans les années à venir. Et que voilà, et si Sonic pouvait devenir un VTuber. Alors qu'est-ce que c'est qu'un VTuber ? Un VTuber, c'est comme un YouTuber, mais virtuel, si vous voulez, ou un Twitcher virtuel. Donc si vous ne connaissez pas cette mouvance, ce sont donc des stars virtuelles qui discutent avec le chat, qui ont des interactions en temps réel avec le chat. Très célèbre au Japon par exemple, vous avez un très bon article de Gamekult qui vous explique la mouvance des VTubers et des VTubeuses. Et donc ces gars se verraient bien demain vous proposer une chaîne où vous pourriez aller discuter avec Tanti Club, pardon, tu as réussi à me choper au vol, aller discuter avec Sonic de choses et d'autres sur internet. Bref, ils les verraient bien faire ça. En tout cas, Kazuyuki Oshino, qui est directeur créatif, se verrait bien faire ça, et il le dit lui-même, il n'a jamais été possible auparavant de discuter avec Sonic en temps réel, et je pense qu'il en sera très heureux. Voilà. À côté de ça, on sait aussi que le prochain jeu de la Sonic Team, qui doit sortir en 2022, qui n'a toujours pas de titre officiel, même si pendant un temps on sait qu'en interne il s'appelait Sonic Rangers, ça va vraiment vous surprendre, mais la Sonic Team fonde de grands espoirs dessus. Alors, pour rappel, le teaser qu'on nous avait montré, c'était ça. Et la Sonic Team fonde de grands espoirs dessus, tant et si bien d'ailleurs, qu'il se verrait bien en faire l'épisode qui définira les 20 prochaines années de Sonic, comme Sonic Adventure a défini les 20 dernières années de Sonic, selon eux toujours. Donc ils veulent que ça devienne une sorte de modèle, une sorte de recette qui devrait donner le la des prochains épisodes. Alors bullshit commercial, évidemment, on en passe toujours par cette petite déclaration-là, mais surtout, il faut peut-être revenir, si vous aviez raté les épisodes précédents, sur ce qu'il serait actuellement en train de se tramer chez la Sonic Team, puisque aux dernières nouvelles, ou en tout cas selon des gens qui ont pu approcher le projet via des playtests aux alentours de 2018-2019, peut-être que le jeu n'est plus comme ça, mais pendant un temps c'était un monde ouvert, très intéressé par Zelda Breath of the Wild, avec des boss titanesques, avec des tours, avec des puzzles environnementaux, avec des défis de plateformes environnementaux. On ne sait pas si le jeu est encore comme ça, mais pendant un temps, il était comme ça. Avec même d'ailleurs une sorte de système de combat où en fait il fallait tourner très vite autour des ennemis pour les dézinguer. Donc un jeu forcément monde ouvert avec un développement plus long. Et quand la Sonic Team dit on aimerait que ça devienne l'espèce de blueprint, l'espèce de recette pour les prochains, on peut aussi se dire que quelque part la Sonic Team nous dit peut-être qu'on se verrait continuer à allonger les temps de développement plutôt que de les raccourcir. C'est bien mal connaître les fans de Sonic qui commencent à se demander pourquoi il faut à chaque fois attendre quasiment 5 ans pour avoir un Sonic. Donc, c'est un peu ce qu'ils disent en filigrane à ce moment-là. Mais bon, c'est aussi une manière de dire soyez excités, ça arrive en 2022. Pour rappel, rien n'est officiel. Si c'est un jeu, ça change énormément durant son développement, donc ça a pu être un monde ouvert à un moment, ça ne l'est peut-être plus actuellement, ça a pu s'appeler Sonic Rangers à un moment, ça ne s'appelle peut-être plus Sonic Rangers. D'ailleurs, ils ont tenu à dire oui, on l'a appelé comme ça en interne pendant un moment, mais non, on ne l'officialise pas comme étant le titre du jeu. Est-ce qu'il y a encore des fans de Sonic? Ils se retrouvent dans les clubs SM parisiens, mais vous êtes des méchants, vous êtes tellement des méchants qu'on va parler justement de la ferveur incroyable des fans de Sonic qui était justement très très mise en avant hier, et très très mise en avant hier pendant le concert des 30 ans de Sonic le Hérisson. On pensait honnêtement qu'après le fiasco du live pré-E3 Sonic, qui était cette espèce de Sonic Central Direct là, qui était nul à chier, on pensait vraiment que quand ils allaient nous donner rendez-vous pour un concert symphonique Sonic, on allait en être pour 25 minutes et puis basta. En fait, ça a duré 2 heures, deux fois une heure en symphonique et une heure full rock années 2000 évidemment. Et ça a donc donné un super moment en vérité. C'était super chouette. Les arrangements étaient bien, l'orchestre était plutôt en place et on a pu avoir, alors peut-être, certes, des moments... Alors ça, c'est la VOD, hein. La VOD est disponible, les deux heures sont disponibles, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Peut-être pas assez de vieux Sonic, c'est sûr. Peut-être qu'il y a eu de grands absents aussi, oui, comme Aquatic Ruin Zone, qui n'est même pas passé. Ça, c'est quand même un truc hallucinant. Mais ils sont passés aussi, ils sont passés par Sonic Game Gear, ils sont passés par Spinball. Enfin, voilà, ils ont surpris aussi à l'occasion, durant cette programmation. Donc d'abord avec cette partie symphonique, qui était, ma foi, tout à fait chouette. Et puis, ensuite, c'est devenu... C'est devenu la teuf. Alors, c'est devenu ce genre de teuf-là, si vous aimez Tomoya Otani, hein, évidemment. Tomoya Otani qui était là, notamment qui était là avec Nathan Sharp. Mais c'était aussi la méga teuf, pour le rappel, je vous le... Voilà. On a fini sur un Live and Learn, donc Crush 40 était là, hein, le groupe de Jun Senoue était là pour chanter notamment Live and Learn, mais d'autres morceaux aussi, avec le chanteur Johnny Gioeli. Et franchement, c'était mortel, c'était un super moment pour les fans de Sonic. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient chauds, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient heureux de voir enfin Sonic, honoré correctement. Et je vous recommande vraiment très chaudement de prendre ces deux heures et de rattraper, ma foi, cette petite session. Et au milieu, on a donc eu, hop, un petit passage de Masato Nakamura, donc la légende, hein, derrière les premières BO des premiers Sonic, qui a la pêche, qui a l'air d'aller, et qui est venu donc nous dire, bon voilà, à quel point il était heureux d'avoir participé à la légende, évidemment, mais aussi nous annoncer qu'il allait sortir un single bientôt, avec son groupe, hein, son groupe qui s'appelle Dreams Come True, et que ce single allait être une reprise de la Green Hill Zone de Sonic. Alors du coup, on s'est dit, ok, comment ça va se passer un petit peu, on sait donc que Dreams Come True, c'est donc un groupe de pop avec une chanteuse, cette chanteuse, elle s'appelle Miwa Yoshida. Du coup, qu'est-ce que ça allait être un petit peu que cette Green Hill Zone? Ils l'ont pas dévoilé sur le moment. Et ils n'ont pas donné de date non plus. Donc on s'est dit, ok, c'est quand? Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'attendre pour savoir à quoi ça ressemblera. Dans le sens où, en fait, le morceau a déjà été utilisé dans une publicité pour une boisson japonaise il y a un mois. Et que du coup, je voulais trouver. On y va. Et voilà, c'est fini. Donc le reste du morceau ressemblera à ça et ça sortira en single quand ça sortira, évidemment. Alors évidemment, c'est pas forcément le remix que vous imaginiez, mais c'est par le groupe du compositeur officiel et il fait bien ce qu'il veut. La version complète sera probablement un son de bamboche, je pense, ouais. Ça me rappelle la reprise du thème de Bubble Bobble en Corée du Sud pour une pub. Ah, Not Kassim, je le connais pas celui-ci. J'avoue que je l'ai pas entendu. Donc ouais, non, vraiment, ce concert, je le recommande très chaudement. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que je... Mais vous ne m'avez rien fait, je vous fais découvrir des trucs. C'est trop bien, non? Je suis allé creuser comme un... Pour vous trouver une pub de thé japonais. Vous croyez que c'est mon univers, ça? Vous croyez que ça me fait plaisir? Non, mais franchement, prenez le temps pour les deux heures de concert. Ça fait super plaisir. Vraiment, moi qui... Et en plus, même Angel Island Zone est passé, quoi. Enfin... J'en suis tout tourneboulé. Si tu cherches Marry Me de Dreams Come True, c'est sur leur premier album, c'est déjà la Green Hill Zone. Ah mais si je passe ça maintenant, on va se faire strike. Mais je note, tiens. Éventuellement, je regarderai si c'est strikeable ou pas. Hop. Est-ce qu'il y a eu Escape Zone dans le concert? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'Escape Zone est passé, malheureusement. Mais bon, globalement, voilà. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas pu... vous voyez, vous savez qu'Escape Zone, c'est compliqué. Hein, en termes de crédit. L'Icacia Prime, merci beaucoup pour les 5 mois d'abo. Et nous continuons donc avec une annonce de date de sortie. Ce sera finalement un jeu de la fin de l'été, non pas vraiment, de la fin du mois d'août. On le connaissait sous le nom Aliens Fireteam, souvenez-vous, donc shooter TPS en coop à 4 joueurs, donc dans l'univers d'Alien, qui avait été montré après voilà, cette baladée vraiment d'éditeur en éditeur pendant longtemps. On savait que c'était Focus Home Interactive qui avait récupéré l'affaire, et maintenant on sait aussi que Focus Home Interactive a peut-être fait une étude marketing et a découvert que Aliens Fireteam c'était moins bien que Aliens Fireteam Elite, le nouveau nom du jeu, pour une sortie le 24 août. Alors rappelons qu'aux dernières nouvelles et aux dernières séquences de gameplay, c'est pas qu'on a peur d'un Dark Alliance, mais on a quand même un petit peu peur que ce soit pas tip top non plus. Hein. En tout cas, le gameplay faisait pas super envie, mais il faudra plus attendre très très longtemps avant d'en savoir plus sur le jeu, puisque ça part sur le 24 août. 24 août donc sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, via Steam en l'occurrence. Donc pour le jeu, sans évidemment les collectors, évidemment les season pass, parce qu'il y a déjà deux season pass avec des cosmétiques dedans, le jeu seul coûte 40€, édité par Focus donc. Bon, il y a les précommandes, mais ça on oublie, hein, évidemment, on attend d'avoir des nouvelles vraiment de la qualité du jeu. On peut juste croiser les doigts pour que ce soit, on va dire, plutôt de type... plutôt déjà de type Outriders que de type Dark Alliance, et peut-être un petit peu mieux, sait-on jamais, on a le droit de rêver. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est combien de temps avant de nous annoncer que ça arrive dans le Game Pass en jour 1. Sauf qu'à mon avis, c'est peut-être celui-ci qui va pas pouvoir passer le portique, parce que Dark Alliance, justement, vient de passer le portique et vient même de forcer un peu l'entrée, si vous voyez ce que je veux dire, vu l'état de sortie du jeu. Donc peut-être que celui-ci n'aura pas les mêmes honneurs. On croise les doigts pour du Outriders maintenant. Non mais à un moment, effectivement, on peut le dire, ces deux dernières années de jeux vidéo, en tout cas en ce qui concerne les jeux coop, enfin on va les Borderlands-like et assimilés, nous ont fait beaucoup de mal. Avant on disait j'espère que ce sera mieux qu'en thème. Et en fait, on s'est rendu compte depuis que tous les jeux qui sont sortis après ont tous été un peu moins bien qu'Anthem. Et maintenant, on regarde Anthem en se disant, franchement, le gameplay bute, il est mortel. Et c'était pas du tout ce qui était prévu, en fait, hein, normalement sur la timeline. Anthem devait être l'accident, et puis ensuite, on devait remonter. Mais on n'a fait que décliner, c'est terrible. Dark Alliance avait été annoncé dans le Game Pass bien avant sa sortie. Oui, je sais, Xenomis. Il y a quoi avec Dark Alliance? Zirid, je trouve que le jeu est pas fini, quoi. Je trouve que le jeu est cassé, l'IA ne fonctionne pas, l'IA n'apparaît parfois même pas allumée. Fallout 76, quoi, vous essayez de sauver Fallout 76, là, c'est ça que je comprends pas. Attention, hein, pas ici. Et après avoir vu Anthem, on se dit que The Division est mieux. Je les arrange pas dans le même truc. Il y a le côté super-héroïque avec les pouvoirs, etc., que je mets un peu de côté. Mais vous savez combien j'aime The Division 2, que je trouve très supérieur à tout ça. Malheureusement, parce que Anthem aurait dû être pour moi le jeu pour les réunir tous. On croise les doigts pour Darktide qui doit être un peu effectivement l'élu, qui doit ramener l'équilibre dans la force, ouais. À fond, mais je, à m'en faire péter les phalanges, je croise les doigts pour lui, bien sûr. Il y a Sea of Thieves, sinon c'est sûrement un meilleur FPS coop. Binouz, je suis d'accord avec toi. C'est pour quand Darktide Darktide non, est-ce que c'est, est-ce qu'il vise 2021? Normalement, il vise cette année, Darktide. Bon. Ah non, mais Sea of Thieves, c'est très bien maintenant, hein. Ça manquait de contenu à la sortie, mais maintenant vous avez des aventures diverses et variées, vous avez du contenu scénarisé, c'est toujours un des, en termes de coopération et en termes d'immersion entre joueurs, c'est un des meilleurs trucs à mon sens qui existe, hein. Alors c'est pas pour, évidemment c'est pas pour enfoncer la tête des autres, hein. C'est vraiment, Sea of Thieves c'est vraiment très bien, c'est, si jamais vous avez un Game Pass et que vous n'avez pas encore pris le temps d'emmener vos copains Game Pass sur Sea of Thieves, vous ratez vraiment quelque chose de fort, quoi. Il faut que j'arrête de parler comme ça avec des pauses tout le temps. Alors on va écouter un peu de Mafia 3. Mais justement, justement, le pire c'est que le prochain sujet c'est Avengers, quoi. Bon, c'est déjà réparé. Hein, donc la bonne nouvelle c'est que c'est déjà réparé. Ça a pris un peu de temps à être réparé quand même. Donc Crystal Dynamics mettait en place le patch 1.8 pour Avengers, donc le patch PS5 1.8 pour Avengers avant-hier soir. Et les joueurs ont eu la drôle de surprise de voir apparaître en surimpression, hein, sur leur écran de jeu, leur adresse IP. En toutes lettres, enfin en tout chiffre en l'occurrence. Alors, si vous n'êtes pas familier de ces choses-là, l'adresse IP c'est donc votre adressage sur Internet. Et sans dire que ça mène facilement à votre adressage dans la vraie vie, ça rapproche quand même pas mal, et ça peut quand même créer bien des soucis. On se retrouve donc avec un patch qui expose l'IP des joueurs donc sur leur écran, des joueurs qui par exemple sont des streamers du jeu, et la seule solution donc de Crystal Dynamics à ce moment-là, parce qu'un patch en fait ça ne peut pas se sortir comme ça, un patch il faut que ça repasse par une certif, ça prend des heures, il y a des délais, il y a des machins, et bien le seul truc qu'ils ont à faire c'est des tweets, des machins pour dire si vous êtes sur PS5, ne streamez pas le jeu, parce que sinon vous allez montrer votre IP aux gens en fait. Pendant quelques heures la seule solution c'était ça, et donc le lendemain un correctif, donc le 1.8b qui est venu masquer ça. Donc très grosse boulette. Ils auraient pu rollback. Je sais pas comment ça se passe en termes d'un point du côté de l'industrie. Je sais pas comment. Est-ce qu'un rollback est plus rapide qu'un repatch? Je n'ai jamais développé de jeu vidéo. Ça a probablement dû faire des heures sup là-bas. Ouais. Ouais, effectivement. Alors. Comment on peut laisser passer un truc pareil? Je sais pas trop. Est-ce que c'est lié au fait que le patch n'avait pas été retesté expressément sur PS5 en se disant non, mais la PS5 pour l'instant c'est pas les cibles? Est-ce qu'il y a eu un défaut de QA quelque part? Je ne sais pas trop d'où un truc aussi gros que ça a pu arriver. Mais ça tombe à un moment assez compliqué pour Crystal Dynamics. Hein, on en parle souvent ici. On est donc sur un jeu qui. Oh là là! Alors moi j'aime beaucoup The Dark Eye, hein, mais c'est quand même très triste. Alors que voilà, Dark Souls, c'est pas triste, vous voyez. On est donc sur un jeu voilà, qui est en perte de vitesse assez hallucinante, hein, qui perd des joueurs un petit peu chaque semaine et qui est maintenant sur un compte de joueurs qui est très bas. Un jeu dont les mises à jour peinent à arriver, ou en tout cas, celles qui arrivent ne contiennent qu'un tout petit bout du contenu promis. On a toujours cette exclusivité PS4, Spider-Man, hein, pour lesquelles voilà, les gens ont acheté donc, le jeu sur PS4 pour avoir l'exclusivité du personnage de Spider-Man qui n'est pas sorti, dont on ne parle plus, dont maintenant qui est relégué en une espèce de stretch goal un peu lointain dans les interviews avec les développeurs en mode ouais, on va le sortir, on est en train de travailler dessus. Ils l'ont jamais montré, ils ont jamais donné ils glissent sur la feuille de route pendant ce temps-là, et eux ils sont en train de travailler sur un personnage qui est pour toutes les plateformes qui est Black Panther. Et du coup oui, effectivement là la boulette supplémentaire qui vient se rajouter par-dessus, c'est un peu sordide, quoi. C'est un peu sordide et ça vient toujours questionner le fameux engagement de Square Enix et Crystal Dynamics qui n'ont pas arrêté de dire en fait on va pas lâcher le jeu. je crois que Square Enix croit vraiment que derrière ça, il y a la possibilité de faire un Realm Reborn, quoi. Mais pour l'instant, rien de ce qui est mis en place ne peut amener ça à être reborn d'une quelconque manière, en fait. 100% Sony a dû dire, en fait, non, on veut pas mettre Spider-Man sur ce flop. Bah ouais, mais Frédérico, dans ce cas-là, comment on fait ? Comment on fait d'un point de vue... Parce que là, du coup, si tu le sors pas, ton Spider-Man, bah, c'est association de consommateurs directs, quoi. C'était un bonus, c'était en macaron sur la jaquette. Donc je sais pas trop ce qu'ils comptent faire. Moi, honnêtement, je pensais sincèrement qu'un de ces quatre, ils allaient juste dire, bon ben voilà, il y a association de malfaiteurs. Moi, je me disais, ils vont sortir Spider-Man un jour, et ensuite, ils vont arrêter. Et ce sera le dernier truc qu'ils feront, juste pour être dans la légalité. Bah ouais, mais Frédérico, c'est pas pareil dans la mesure où là, vraiment, shutdown le jeu sans avoir respecté, ne serait-ce que... Ah, quoique, effectivement, en thème, hein, il shutdown le jeu. Il me semble que sur l'arrière de la jaquette, il est écrit qu'il va y avoir plusieurs actes, plusieurs chapitres de scénario... Ah oui. Ah oui, le livre est revenu dedans. Le perso de Spider-Man n'est pas retardé pour une sortie simultanée avec le prochain film ? Non, je pense pas. Sinon, il l'aurait dit, Strikey Fogg. Là, il se retrouve quand même avec une communauté qui attend toujours un bonus d'achat du jeu sur PS4, quoi. PS4. Bon bref, en tout cas c'est réparé, c'est bien le plus important, et ça va nous permettre de passer sur le trailer, le vrai trailer de ce matin. L'autre vrai trailer de ce matin. L'autre vrai. Bref, je le passe parce que sinon juste c'est la modération qui va me péter la gueule. Mais après je saurais pas vous expliquer ce qui va se passer, donc... C'est l'annonce d'une date de sortie... pour Melty Blood Type Lumina, mais aussi d'une sortie conjointe sur PC. Ce sera donc le 30 septembre, dans tous les territoires, que sortira Melty Blood Type Lumina sur PS4, Xbox One, Switch et PC, du coup. On est sur un jeu de baston, c'est peut-être pas votre esthétique, mais il paraît qu'en termes de système de jeu, c'est hyper bien, me disent les experts. Peut-être que ce sera le moment effectivement de me faire expliquer la vie par Von Yaourt, on ne sait pas. Si Von accepte de me faire un tuto live. Salut Thomas Horus. Donc sachez que vous aurez sur vos versions PC et console, il me semble, la version japonaise, la version anglaise, la version chinoise simplifiée et la version coréenne. Vous regardez un jeu de baston qui, si je ne m'abuse, se range dans la catégorie des... Air Dasher ? J'ai le droit de dire ça ? Air Dasher ? Je regarde... Même pas. Merde ! Je me suis raté. Merde, mais aidez-moi, filez-moi. C'est presque ça. C'est des moitiés... Des... Bon bref, vous irez lire ça, hein, voilà, vous irez lire ça sur Gamekult. Forcément, c'est Von Yaourt qui va faire le test sur GK, voilà, hein. Il y a rien de surprenant à ça. Et moi, pendant ce temps-là, ben, la modération, elle me laisse tranquille. Voilà. En tout cas, Von Yaourt, parce que je sais que Madingue, lui, il s'en tamponne et il a bien raison. On continue donc avec la vraie annonce de ce matin. Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez le studio Digital Eclipse ? Studio donc qui a travaillé sur Mega Man Legacy Collection, et avant ça sur la collection rétro de Blizzard, la Blizzard Arcade Retro Arcade Collection, je sais plus comment ça se dit. Donc ce studio-là a été mandaté par des ayants droit un peu particuliers, parce qu'ils nous viennent du cinéma, pour mettre en place un jeu vidéo qui intègre en fait des suggestions de fans, jeux vidéo promotionnels pour le prochain film Space Jam, donc Space Jam 2, qui s'appelle Space Jam A New Legacy. Et donc le jeu s'appelle Space Jam A New Legacy The Game. C'est assez normal.
What's up, Doc? A little while ago, we asked fans from around the world to submit their best ideas for an original Space Jam A New Legacy arcade game.
Et vous allez vous dire, vous allez me dire, mais attendez, comment on peut vendre un jeu qui a été créé avec les suggestions des fans? Et ben c'est là qu'est la surprise. On ne le vend pas. On le place en exclusivité sans frais supplémentaires dans le Game Pass. Donc Space Jam A New Legacy The Game devient un jeu exclusif Game Pass qui n'est pas achetable sur Xbox One, qui n'est pas achetable sur PC, que vous ne pouvez avoir que si vous êtes abonné. Et donc c'est une petite collaboration entre Xbox, entre la marque Xbox et la sortie du futur film. Voilà. Ça permet aussi à Xbox d'annoncer qu'il y a 3 manettes exclusives Space Jam qui vont sortir. Et voilà, vous voyez un petit peu, c'est le un peu It Begins, effectivement, Doctor Strangelove, où le Game Pass devient aussi un endroit de promotion de choses. Faut espérer que ça ne devienne pas trop un endroit de promotion de choses. Faudrait pas dénaturer la force du truc. N'est-ce pas? Non mais je dis ça parce que je sais que Microsoft me regarde, parce que c'est à cause du chèque. Ça ressemble effectivement à une sorte de Final Fight, Kimo. Ouais. On verra ton truc. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense que là ils testent des trucs. En revanche, je pense pas que ce soit genre bon bah là le partenariat avec Space Jam où on est obligé de monter le prix pour tout le monde. Je pense plus c'est bon. Un petit produit promotionnel dans le Game Pass. Voyons comment c'est reçu. Et on sera plus informé pour demain, quoi. Bon, je vous ai menti, voilà. Ce matin, je vous ai menti. Il y avait plein de trailers. J'ai fait style, j'étais content de les voir et tout. Mais il n'y en a qu'un seul que je suis vraiment content de voir. Et voilà. Voilà. On recommence, ça y est, on recommence, le jeu est repoussé à l'année prochaine, le 3 est terminé, on recommence, KOF 15, une semaine, un trailer, boum, on y va.
Vanessa.
Vanessa. Que dire ? Qu'est-ce que c'est vilain? Qu'est-ce que c'est vilain? Est-ce qu'elle va shatter les expectations ou pas?
Team Secret Agent.
Donc Vanessa fait partie de la team Secret Agent, évidemment. Et c'est tout pour le moment pour KOF 15. Je vous présente pas le personnage, je le connais pas. Vous avez vu son gameplay, ça a l'air bref. Mais je ne connais pas suffisamment KOF 15, c'est juste que je me suis engagé. Voilà, on est dans une démarche d'exhaustivité totale. Et c'est notre joie, n'est-ce pas? Hein? Que c'est notre. D'autant que maintenant qu'il a été repoussé, du coup, nous ça nous rajoute des trailers. Et puis peut-être qu'à ce rythme-là, ça va devenir le jeu avec le plus grand nombre de trailers jamais réalisés. Et ça, c'est cool. À jeudi prochain pour le trailer suivant, effectivement. Allez, on va passer aux petites bandes annonces. Car il y en a. Oh oui. Petite surprise. Alors d'abord, le tweet a été supprimé. Alors, les petites boulettes en ce moment du côté de chez Square Enix, ça n'arrête pas. Mais ensuite, ça a été reconfirmé. Donc, Neo The World Ends With You, donc le deuxième épisode désormais de la série The World Ends With You. on va plutôt dire Twewi, parce que c'est plus simple, va se proposer en fait sous la forme d'une démo jouable avant sa sortie le 27 juillet, et cette démo jouable arrivera demain. Donc nouvelle bande-annonce, très longue bande-annonce, on va pas regarder en totalité, hein, d'autant que elle est pas hyper rythmée cette bande-annonce, mais vous allez y voir absolument tout le gameplay, toutes les phases de gameplay, les combats, les discussions à rallonge, la musique, beaucoup beaucoup de musique. Si on devra, moi en tout cas, si je dois garder quelque chose pour l'instant du jeu, c'est sa BO. Donc pour rappel, il y a eu un round de preview autour de Neo Tuewi il y a encore quelques semaines. Vous avez notamment les impressions de Puyo qui sont disponibles sur Gamekult, mais il n'est pas seul, j'imagine que Atomium a dû en vous en faire aussi, hein, sur sa chaîne. Et donc effectivement, une démo à partir de demain, donc si vous n'avez pas envie de lire la moindre info à propos du jeu et que vous préférez en faire la découverte, ce sera le moment. Rappelle que c'est un jeu avec un tout autre budget qu'un Kingdom Hearts ou qu'un Final Fantasy, hein, et ça se ressent assez vite. Moi perso, je peux pas. Alors on va passer au prochain, la prochaine bonne annonce. Allez, allez, allez. The shortest way from A to B. This old saying will prove true in the adventure that follows. Lui, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, on a une date de sortie sur Switch et PC. Ce sera le 15 juillet pour Labyrinth City, Pierre de Maze Detective. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc, effectivement, ça se présente comme un Où est Charlie, sauf que là, bah, vous jouez Charlie, alors vous faites bien ce que vous voulez. Et le but va être simplement de se déplacer dans un monde pour trouver des petites choses, des petites animations mignonnes, des petites interactions. C'est un jeu à interaction, c'est un jeu jouet, un peu comme pouvait l'être hier le jeu Lego, un peu comme peut l'être Gnog aussi. Ça fait partie de ces jeux où on vous confie un petit monde, balade-toi dedans, et puis bah, tu trouveras des choses chouettes, des petits collectibles, des, voilà, des petites choses comme ça. Alors c'est déjà disponible sur Steam. Alors pourquoi j'ai le 15 juillet sur Switch? C'est peut-être, ah, c'est le 22 juin effectivement sur Steam et le 15 juillet sur Switch. Donc vous pouvez déjà y jouer sur PC en fait. Vous aviez une démo sur itch.io que je vous avais présenté assez rapidement, il semblerait que le jeu ait tout un système de musique adaptative qui soit très intéressant, avec donc la musique qui va s'adapter, enfin qui va s'adapter évidemment, c'est la musique adaptative, la musique qui va vraiment changer selon les endroits où vous allez, selon les objets que vous trouvez, etc, etc. Oui, il y a une petite vibe effectivement, Hidden Fox en couleur, breloque en toc. Est-ce qu'il y a une trame narrative ? J'ai pas l'impression que ce soit le but. Ça vous déroute, hein, mais ça va aller, rassurez-vous. Vous verrez, les jeux joués, c'est bien aussi. C'est pas grave. Il n'y avait pas de trame narrative dans un Mighty Max, par exemple. On soulevait des trucs et puis on faisait notre histoire. Là, c'est un peu pareil. Chaque fois, je reparle de Mighty Max, c'est terrible. Il y a un ennemi à rattraper. Oui, bah en fait, on imagine effectivement qu'à force d'interaction, vous allez débloquer des nouveaux endroits du monde. Et du coup, vous avez un objectif final. Mais bon, je pense que le but, c'est plutôt de découvrir des petites scènes de vie dans l'univers du jeu. Bernie Gordon, merci beaucoup pour le Prime. Vous n'avez pas la ref? Alors, allons-y. On prend deux secondes. Pour les moins de 20 ans, le Mighty Max, c'était le Polly Pocket des bonhommes. Les Polly Pocket, c'était des petites têtes comme ça, des petits machins qu'on ouvrait, et à l'intérieur il y avait des petites des mini-mondes. Et vous voyez, comme il y a un petit peu des sacs ventraux pour papa, tactique, parce que voilà, quand on est papa, évidemment, on part sur, voilà, c'est du treillis, quoi. Et ben nous, on avait les Mighty Max, parce que c'était Max, quoi. Et puis il y avait des monstres, et puis il avait une casquette, et voilà, c'était bien, c'était très très bien. Il avait donc un M rouge sur son t-shirt blanc. Et un jour, moi, beaucoup plus tard, je suis allé à une soirée déguisée en Mighty Max. Et tout le monde m'a dit « Ah, t'es déguisé en Gmail !» Voilà. Et on était deux ce soir-là déguisés en Mighty Max. Deux Gmail. Voilà. Instant confession. Moaltan, merci beaucoup pour les 3 mois d'abo. Ah, elles existent les photos, hein, je pourrais les montrer si vous voulez. Gmail. Google. je sens bien que le voilà, je sens bien effectivement que les sous-titres sont en train de partir en cahuète. Je comprends. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pipo. Non, c'était pas lui. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. J'ai vu la bande annonce hier. Je me suis dit, tiens, on va en parler. Peut-être que ça leur plaira. Ça sort le 15 juillet également. 15 juillet sur Switch et PC. PC via Steam, Good Old Games, Humble, Green Man Gaming et Nuvim. Y a tout. Hein, comme ça, vous pouvez. Voilà. Et le jeu s'appelle Guild of Darksteel. Et bon, bah, ça va nous rappeler des choses, évidemment. Mais je me demande ce que vous en pensez, vous, en termes de. Vraiment de gameplay pur, d'animation. J'ai du mal à me placer sur le jeu pour l'instant. Il y a un petit côté Olija. Bon, la musique, c'est un autre délire. Hein. Je crois qu'il a un peu trop pris à la lettre le côté donjon, quoi. Donc le 15 juillet, peut-être que ce sera l'occasion de faire une petite prise en main pour voir un petit peu de quoi elle retourne. Oui, effectivement, le choix musical n'est pas des plus intéressants. Il y a 3 animations de combat. En fait, le truc, c'est que j'ai vu des trailers hyper mal foutus. Du coup, je me suis dit, ok, je vais leur montrer, ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Je vois que d'ailleurs, hein, voilà, il y a des gens sur le chat qui sont là, moi j'y crois pas. Voilà, déjà savoir qu'il existe, parce que moi je ne savais pas qu'il existait jusqu'à hier soir. Sinon, pour les key art, c'est bien d'embaucher des artistes. Alors, Klosky, là-dessus je te l'accorde. Embaucher Klosky pour vos key art, enfin, c'est rien. Et le prochain n'est pas du 15 juillet, mais du 30 juillet. Il s'appelle Vesper, c'est du puzzle platformer. Là aussi, au niveau de la DA, ça va vous rappeler des trucs. Peut-être Outland ? Je sais plus. Donc, c'est édité par Dextertine, mais pas développé par Dextertine, c'est développé par Cordance Interactive. Je vais aller voir ce qu'ils font pendant que je vous montre la bande-annonce. Donc c'est un studio italien. J'ai l'impression que le gameplay, c'est le gameplay d'un Oddworld. Ou un truc dans le genre. Il était bien ce petit morceau là. Je reste curieux, en tout cas, de la BO, si ça doit être dans le même... C'est très atypique pour une bonne annonce de jeu. Donc Vesper, le 30 juillet. Le 30 juillet sur quelle plateforme ? Sur PC, je le disais. Et pour l'instant sur PC. Ils ont un peu, ouais, ils ont effectivement un peu forcé sur le flickering. Le flickering aujourd'hui, c'est le flickering. Le flickering. J'espère que ce sera bien. D'accord. D'accord. Donc on en est là ce matin. On est, vous savez que y a beaucoup de gens qui vous disent quand même. Je vous trouve hyper détendu de la vanne. Après, c'est le vôtre. Hein, c'est, voilà. Vous faites vos blagues en nom propre. Et c'est déjà bien courageux. Il nous reste un trailer, celui-ci, en fait, il aurait dû arriver en début de semaine. Malheureusement, j'ai complètement oublié. La date de sortie a été confirmée. Non, il nous en reste quelques-uns, en fait. Il nous en reste trois. La date de sortie a été confirmée, là, pour août. On le connaît depuis un certain temps. Avant de vous le montrer, j'aimerais juste faire un point dessus. Le jeu s'appelle Recompile. Il est notamment édité par Dear Villagers. C'est l'endroit où travaille Boulapouar. Vous connaissez un peu le truc. Je vous le rappelle à chaque fois, parce que voilà. Et à côté de ça, le jeu va donc... bénéficier au niveau de son interface, qu'on ne voit malheureusement pas dans ce trailer, du travail de Paul Wolinski, qui est l'un des membres du groupe 65 Days of Static, qui fait notamment du glitch, qui fait des interfaces à base de d'ASCII art et ce genre de choses. Et donc pour cette bande-annonce, ils ont donc demandé à 65 Days of Static, qui est un de mes groupes préférés, de faire un morceau. C'est eux qui ont fait la BO de No Man's Sky. Alors, la mauvaise nouvelle, je vous le dis tout de suite, c'est qu'aux dernières nouvelles, le jeu n'était pas hyper agréable à jouer. Moi, quand j'y ai joué, j'ai été un petit peu déçu. Atomium y a rejoué il y a un mois, il me semble, il était pas trop chaud non plus. Pourtant, le jeu est très beau. Mais on n'a plus beaucoup à attendre, hein, puisque ça arrive au mois d'août. On reconnaît, hein, 65 Days. Vous voyez, c'est ce genre d'interface justement sur lesquels a bossé Wolinski, parce que c'est lui qui fait les trailers de, qui fait les clips pardon de 65 Days of Static aussi. L'ambiance est très très bien, ouais. Donc effectivement, maintenant ce qu'on veut c'est le voir arriver, et il arrive en août de cette année sur Steam, PS5, Xbox Series X, et c'est tout. En tout cas, selon cette bonne annonce. Si les jeux se résumaient aux trois jeux que tu viens de présenter, je jouerais même plus aux jeux vidéo. Vive les AAA. Une position très brave. Ouais, on n'a pas fini, je te préviens, parce que j'en ai encore deux dans les cartons là. Puis je peux te dire que on est difficilement sur du Avengers. Itora qui se présente aujourd'hui à vous et à moi, parce que je le connais pas. Je crois que j'aime bien la DA. Je crois que j'aime bien le rendu. Je crois que j'ai peur de l'anime. Mais c'est beau. Ou je rêve? C'est moi qui ai... Donc pas de date, hein, malheureusement, pour Itora. Ah, ça rappelle un petit peu l'héroïne de... Comment s'appelle-t-elle? J'ai vraiment peur des contrôles. De Indivisible, ouais. Ouais, j'ai peur de ça, là. Ça me fait super peur. Mais visuel, y a un truc, hein. Le jeu s'appelle Itora, donc, et est prévu pour cette année, pour le moment. Pas plus de dates, pas plus de... Voilà. Juste pour l'instant sur Steam, et puis peut-être ailleurs ensuite. Mais il est vraiment très joli. Donc, moi, j'ai wishlisté, je me suis dit... comme ça, voilà, je ne l'oublierai pas. Il m'aura prévenu, effectivement. Il t'aura bien joué. Et la dernière bande-annonce de ce matin, on va finir tôt, en fait, hein, ce matin, donc ça va nous permettre de passer peut-être sur Returnal, on verra, je vous tiens au courant. C'est des nouvelles de Cyan Worlds. Alors là, on retourne, donc voilà, quand on parlait de Mighty Max tout à l'heure, donc Cyan Worlds, les développeurs de Myst. Pour les moins de 20 ans... De quoi s'agit-il? Donc Cyan Worlds, les développeurs de Myst et de toute la série des Myst et de quelques jeux ensuite dont Obduction, ont ressorti en fait Myst il y a quelque temps sur casque Oculus. Et en fait annonce donc que cette réinterprétation de Myst, alors pour rappel la bande-annonce d'époque c'était celle-ci parce que j'en ai pas d'autres à vous montrer pour le moment, la bande-annonce d'époque de l'époque d'Oculus donc, vous pouvez donc y jouer en casque Oculus, mais le jeu arrive désormais et revient, on va dire, en version mise à plat sur Steam pour le troisième trimestre 2021. Donc cette réinterprétation du Myst de 93 arrive sur Steam pour l'été en gros. Combien de fois ça a été le cas, je me souviens pas. Je me souviens plus. Remarkable book of new beginnings. And yet, even as I cherished it, I had to let it fall. Alors, mise à plat, oui, parce qu'on parle vraiment de la version VR, mais retransposée sur du jeu en non-VR. It continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. La musique, la musique! La musique de Myst. La musique de Myst, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc on verra ce que ça vaut, on verra si c'est intéressant, tout ça. Hein. Donc troisième trimestre sur Steam pour un retour de Myst. Et puis bah, si jamais c'est pourri, bah, on pourra toujours s'écouter la BO. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une BO réinterprétée. Et ça, c'est plutôt, ça m'intéresse pas mal, je dois dire. Oui, la version VR est sortie à Vegabigs. Elle est disponible sur... Oculus. Je sais pas du tout s'ils ont modifié les énigmes. En fait, le jeu est sorti à une époque où j'étais déjà plus équipé en casque de VR, malheureusement. Et Tils, je vais la faire parce que ta vanne est très bonne. Avis à ceux que ça intéresse, je vends l'unique photo d'un Emmaüs ne contenant pas de copie de Myst sous la forme d'un NFT. Ok, elle est très bien. Elle est très élaborée, peut-être trop élaborée, mais elle est quand même très bien. alors, voyons ça. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. C'est normal, hein, l'actualité étant un tout petit peu plus calme. C'est assez normal aussi que les matinales soient un peu plus courtes. Il faudra parfois s'y habituer, parfois on passera sur du jeu, parfois pas. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une petite bamboche pour voilà, se remercier d'avoir été là tous ensemble, parce qu'on n'a pas fait ce matin, c'est quand même assez hallucinant. Et ensuite, je mettrai un petit timer de 5 minutes, et puis peut-être que je reviendrai pour faire un peu de Returnal, parce que j'ai des comptes à régler. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester dans le coin. Bambochon, oui, mais avec quoi ? C'est bon. Je l'ai. On se refait pas, hein. C'est normal. Merci donc d'avoir été avec nous ce matin pour une nouvelle matinale jeux vidéo. Pour rappel, on est là le matin de 9h à minimum 11h30 du lundi au jeudi et le vendredi en grâce matinale de 13h à 15h30. Ce sera le cas donc demain, vendredi. Déjà, si vous n'êtes pas là demain pour ne pas rater l'info, je ne serai pas en matinale lundi matin. Je prends un jour, j'en ai besoin pour raisons personnelles, puis on s'en fout en fait. Cette vidéo, évidemment, ça part vers YouTube, avec une version chapitrée, vers les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé sur le chat et d'avoir été d'une si bonne humeur. Merci si vous avez décidé de soutenir la chaîne via Twitch. Vous pouvez aussi le faire sur utip.io/gotos si vous voulez passer en dehors du système Amazon. Moi, comme d'hab, c'est le grand merci final. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, là, on coupe la VOD et on se retrouve juste après. A plus et bonne journée.